Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tout le monde. Notre table ronde, elle concerne les frères et sœurs dans les récits d'imaginaire. Alors, on a été dans l'obligation d'improviser un petit peu puisque Samantha Bailly ne participe pas à la conférence et du coup, on a récupéré Paul Bern. Alors non, en fait, Paul s'est porté volontaire très gentiment pour venir discuter un petit peu aussi des frères et sœurs. Et du coup, on se retrouve avec un panel assez particulier puisque on a Aurélie Wellenstein avec les loups chantants qui nous parle réellement d'une fratrie, enfin d'un frère et d'une sœur, Yuri et Kira. Et puis avec Olivier Gay et Faux Frère Vrai Secret, on a un texte où on a donc, comme le titre l'indique, un faux frère. Ce qui est intéressant évidemment pour voir pourquoi ce faux frère et pourquoi partir là-dessus, sur cette idée d'un faux frère. Et puis avec Paul, on a une absence de frères et sœurs. Alors que c'est un thème qui l'intéresse beaucoup. Et alors, il en parle un petit peu dans un livre qui n'est plus édité, qui va être réédité l'année prochaine chez Rajo, donc le Club des chasseurs de fantômes. Mais c'est le seul, alors que dans tous ces autres livres, il y a des relations très fortes entre les personnages qui peuvent, il me semble, référer à la relation de frère et sœur. Donc voilà, on va explorer ça. Non mais fais pas cette moue. Aurélie, on commence du coup peut-être par je vais lire un petit bout des loups chantants où on voit bien la relation entre Kira et Yuri, donc le frère et la sœur qui vont être au centre du récit. Donc c'est tout au début du roman. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il existe en grand format et en poche en plus, donc c'est cool. Kira appela-t-il en entrant. Donc le il ici est Yuri. Un nuage de vapeur sortit de sa bouche à ce mot. Bien que le poêle fût éteint, les tentures brodées, les tapis et les coussins jaunes, oranges et rouges dégageaient une agréable impression de chaleur. Ses yeux tournèrent sur l'intérieur spacieux de la tente. Pendant un instant, il crut que sa sœur n'était pas là. Puis il la repéra, prostrée entre le lit et le coffre à vêtements. Elle avait rabattu sa capuche sur sa tête. De longues mèches bleues se déroulaient le long de ses jambes, remontaient contre sa poitrine. Elle serrait les genoux entre ses bras et se balançait d'avant en arrière. « Kira !» s'écria-t-il. Il traversa la yourte en trois enjambées, renversant un pouf dans sa précipitation. « Laisse-moi, s'il te plaît !» murmura sa sœur en se tournant vers le mur. « Pourquoi ? Je ne me sens pas bien. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda Yuri en s'asseyant à côté d'elle. « Dis-moi !» Il passa un bras autour de ses épaules et la sentit frémir à son contact. Dans la pièce étaient dispersés ses outils de rituel. Un bol en terre cuite, empli d'un liquide rouge, des plumes blanches, noires et grises, des cailloux. Plusieurs lettres de pouvoir étaient dessinées sur une plaque en écorce de bouleau. Son livre de magie gisait à côté d'elle, grand ouvert. « Qu'est-ce que tu as fait ?» insista Yuri. « Moi ? Rien du tout, » répondit-elle d'une voix étouffée sans lever la tête. « Je ne comprends rien à ce que tu marmonnes. S'il te plaît, explique-moi. » Voilà, alors dans ce petit extrait, je trouvais ça intéressant parce qu'on trouve tout le contexte des loups chantants qui apparaît et puis surtout cette relation qu'on devine déjà très forte entre deux. Qu'est-ce que tu voulais raconter avec ce frère et cette sœur ?
En fait, les loups chantants, donc, c'est un roman qui est un peu cross-edge, c'est-à-dire en grand format, il a été publié en young adult. Et en poche, il est dans le secteur adulte. C'est-à-dire que c'est un roman qui va un peu traverser au niveau du public les âges. On peut le lire quand on est assez jeune ou quand on est grand. Et donc en littérature jeunesse, en fait, il y a quelque chose que vous devez faire assez vite dans le roman, c'est de vous débarrasser des parents. Parce que c'est les héros, c'est les jeunes. Donc, alors dans Les Loups Chantants, en fait, les parents sont pas morts, mais ils sont éloignés. Vraiment, les deux jeunes sont assez en autonomie. Ils sont à la capitale. Eux, ils sont dans un village d'éleveurs de rennes, dans une sorte de Sibérie fantastique. Et les parents sont partis finalement travailler ailleurs, très loin. Donc, les deux jeunes se retrouvent. Ils ont 17 ans, je crois, si je me rappelle bien. Et donc, ce que j'illustre dans cette relation frère-sœur, c'est vraiment cette forme de suppléance parentale, en fait. C'est quand vous avez dans la famille, quand c'est morcelé, quand ça s'émiette comme ça, la façon où le frère et la sœur vont faire corps ensemble, ils ont une relation donc très forte. C'est pas du tout une relation de rivalité ou concurrentielle comme on peut avoir dans la plupart des récits, en fait, imaginaires ou pas, en littérature ou même dans d'autres textes, vont avoir tendance à opposer la fratrie dans des duels fratricides, dans des positions extrêmement conflictuelles où tous les deux vont, où peut y avoir de la jalousie par exemple, et où les personnages vont s'opposer. Donc là, pas du tout. Là, les personnages vont se compléter, ils vont se soutenir. S'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Et en fait, la sœur de Yuri dans le récit tombe malade. C'est une maladie fantastique. Hein. C'est de la glace qui apparaît progressivement sur son corps. Donc là, en fait, dans le petit bout qu'a lu Silène, elle a juste de la glace qui commence à apparaître au creux de sa main. Et en fait, ça va s'étendre. Et du coup, elle est vraiment en danger parce qu'elle va devenir, elle va se pétrifier dans la glace. Et évidemment, toute l'histoire raconte comment son frère va tout faire pour la sauver. Donc on est dans un texte où le frère et la sœur vont s'entraider tout au long du roman. Ça ne va pas toujours être complètement rose, parce qu'il y a des moments où elle craque, quoi. C'est tellement dur. Elle est très courageuse, très très courageuse. C'est une fille qui est très courageuse, qui prend son destin à bras le corps. Mais de temps en temps, c'est super dur. Mais lui, il est vraiment là pour la soutenir. Bon, après, il y a aussi d'autres choses qui se passent, parce que c'est un texte qui explore aussi trois types de relations. Il y a la relation de Yuri avec sa sœur, il y a la relation avec son ancienne petite amie qui est morte et qui est peut-être réincarnée dans un loup. Et donc ça, c'est la partie amour. Et j'en oublie une, je ne sais plus laquelle. Mais enfin voilà, c'est vraiment le rapport, différents rapports avec les femmes, la sœur, la femme.
Anastasia.
Et Anastasia, et merci, elle connaît mieux mon texte que moi. Et la meilleure amie, voilà. Donc c'est trois relations du personnage garçon principal avec trois femmes, et là, il y en a une qui est louve, mais avec trois figures féminines. Et du coup, c'est un texte assez féministe et qui parle beaucoup de la condition de la femme aussi à travers l'imaginaire.
Merci. Alors du coup, avec Olivier, dans Faux frères, vrais secrets, on rentre dans le texte aussi. Au tout début, donc cette pauvre Léa, elle va se retrouver avec un frère du jour au lendemain. Donc voilà, elle en parle avec ses copains. On va les découvrir un petit peu. J'avoue, j'espérais un peu qu'Arthur et Mounia me soutiennent, mais là, seconde trahison. Ils ont l'air plus amusés que catastrophés. Arthur, grand, pâle, les cheveux longs et blonds. Mounia, petite, la peau mate, les cheveux corbeaux coupés courts. On dit que les contraires s'attirent, en tout cas, je me sens bien en leur compagnie. D'habitude. En même temps, t'as toujours voulu des frères et sœurs, non ? Observe Arthur. Sur le principe, pas en vrai. Et puis même, ok, ce serait cool d'avoir un petit frère bébé qui grandirait, sur lequel je pourrais veiller, pas un garçon de mon âge qui sort d'on ne sait où. Voilà, donc elle se retrouve avec un grand frère, tout d'un coup, du jour au lendemain, que son père va lui imposer. Et alors je continue avec une petite ellipse. Mon téléphone vibre, un seul mot de la part de Mounia, courage. Mes deux meilleurs amis se liguent pour me remonter le moral. C'est sympa et en même temps perturbant. Ça me confirme qu'il y a un truc dont je dois avoir peur. Je me sens comme une condamnée marchant à l'échafaud, comme Triss qui va passer son test dans Divergente. Alors que bon, je vais pas en mourir, si. D'accord, ma vie va être perturbée et tout sera différent. Et déjà que je ne vois pas beaucoup mon père, je vais devoir le partager avec un inconnu. Et on ne m'a même pas demandé mon avis. Et pourtant, ça me concerne, non, un petit peu. C'est pas comme si on adoptait un hamster. Et un hamster nommé Mike, ce serait ridicule. On n'aurait pas pu faire un essai d'abord ? 3 jours ? Une semaine ? Voir si la France lui plaisait, si on s'habituait à sa présence. Si ça allait pas, on le renvoyait à sa... Je m'arrête brutalement à l'angle de la rue. C'est ça le problème. C'est qu'il n'a plus de famille. Je suis en train de râler parce que je vais devoir partager ma salle de bain alors que lui a perdu ses parents. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi égoïste. Ce ne sera pas facile pour moi et je devrais apprendre à ne plus laisser traîner ma brosse à dents sur le rebord du lavabo. Mais lui, il se retrouve tout seul dans un pays étranger avec des codes qu'il ne connaît pas et une sœur qu'il n'a sans doute pas souhaité non plus. Alors, super intrigue, super début, voilà, d'imaginer... D'où ça vient, cette idée d'imaginer qu'on se retrouve avec un frère tout d'un coup
Bah en fait, c'est... Ouais, le micro marche. En fait, c'est vraiment moi, quand j'étais ado, que j'ai appris ce principe, en fait, du parrain. Parce qu'on a tous, j'imagine, un parrain et une marraine, sauf que c'est... Voilà, c'est un truc, on le sait vaguement, c'est des gens qui nous font parfois des cadeaux à nos anniversaires, mais ça n'a pas particulièrement de sens pour nous. Mais en fait, j'ai appris que si jamais demain, enfin demain non, maintenant je suis adulte, mais quand j'étais ado, si mes parents décédaient, comme dans le cas des parents de Mike dans un accident de voiture, c'est pas systématique, mais en tout cas, le parrain ou la marraine, c'est normalement l'un des deux qui a le plus de chance, en tout cas auprès du juge d'affaires familiales, de récupérer l'enfant. Ça veut dire que on peut se retrouver, comme c'est le cas de Léa, du jour au lendemain avec quelqu'un qui va intégrer notre famille sans qu'on l'ait demandé. Moi, ça m'a vraiment, moi j'avais, je sais pas, j'avais 12 ans, 13 ans et ça m'a vraiment choqué parce que je me dis, bah, c'est vraiment quelquefois le parrain, la marraine, c'est des gens de la famille, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on voit, mais parfois ça peut être des gens à l'autre bout du monde et c'est vrai que ça me paraissait vraiment assez incroyable ce truc là. Et puis, il y a aussi le fait... Alors, moi, j'ai une sœur, on a 8 ans d'écart. Et c'est l'écart le plus pourri qu'on puisse imaginer. Parce qu'en fait, quand on a 6 mois... Enfin, 6 mois, c'est compliqué. Mais quand on a... quand on a un an d'écart, un an et demi d'écart, on peut jouer ensemble, etc. Ça, c'est pas un problème. Quand on a 12 ans, 13 ans, 15 ans d'écart, il y a tellement d'écart que finalement, c'est quelqu'un dont on va s'occuper, etc. Quand on a 7 ans, 8 ans d'écart, c'est juste on est trop égoïste pour trouver que c'est bien d'avoir une petite sœur. Et en même temps, on peut rien faire avec, ça fait que brailler et ça, c'est pas jouer, quoi. Et voilà, on peut même pas sortir avec ses copines parce qu'elles ont 7 ans, quoi. Donc, c'est pas très intéressant. Je retire cette phrase. Et
trop tard, je crois que c'est enregistré.
Voilà. Du coup, c'est vrai que moi, j'avais aussi ce côté de dire qu'en fait, très souvent, quand on a un petit frère, une petite sœur qui arrive, la personne qui jusque-là était enfant unique n'a pas forcément son mot à dire. Donc là, c'est vrai que pour Léa, c'est quelqu'un qui arrive tout fabriqué à 15 ans déjà dans sa vie. Mais c'est vrai que dans tous les cas, généralement, quand on a un petit frère ou une petite sœur, bah, c'est souvent une décision de nos parents, mais ce n'est pas une décision à nous. Et donc, on peut se retrouver dans une particularité. Enfin, moi, je me reconnais beaucoup là, dans le passage qui a été lu des loups chantants. Et en même temps, on peut se détester aussi. Ça qui est formidable, c'est qu'en fait, je pense qu'entre frères et sœurs, c'est la relation... plus que des relations d'amitié, plus que même avec ses parents, etc. C'est à la fois une relation qui peut être super conflictuelle jusqu'à aller à des trucs vraiment violents et en même temps super protecteur. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu le côté il n'y a que moi qui ai le droit de dire que ma sœur est une conne, quoi. C'est, les autres n'ont pas le droit. Et je trouve que voilà, c'est un point qui est important. J'ai complètement oublié la question que tu m'avais posée, en fait.
Ouais, moi aussi, parce que je suis partie à t'écouter, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est pas grave, l'idée c'était d'où ça venait, donc c'est bon, on va pouvoir continuer, parce que tu nous as dit d'où ça venait.
Ouais, c'est crois. Bon ça. Ouais. Ok, bah super.
Alors du coup, Paul, on se tourne vers toi. Moi qui suis une exégète de ton œuvre, je constate que la plupart du temps, tes héros, et surtout tes héroïnes, parce que tu fais très bien les héroïnes, sont enfants uniques, donc à l'âme, dans Jeanne, dans Les Derniers Parfaits, ils n'ont pas spécialement de frères et sœurs, dans Le Septième Guerrier Mage, non plus. Ah, c'est différent.
Ah si, il a un frère. J'ai oublié. Ouais.
Et alors, il y a le club des chasseurs de fantômes. Dans 14-14, on a fait des frères et sœurs, mais qui ne servent pas grand-chose à part voilà, pour créer un peu de suspense. Du coup, connaissant aussi ta vie, étant capable de faire ta nécrologie, toi, tu as des frères et sœurs. Et c'est quoi le truc? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas vers une histoire où il y a une relation frère-sœur?
Moi, des frères et sœurs, j'en ai plein. J'ai deux frères, j'ai une sœur. J'allais pas en inventer en plus pour mettre dans mes romans, quoi. Et en plus, j'ai trois enfants qui sont trois frères entre eux, qui peuvent pas se blairer les uns les autres. Donc c'est pas pour écrire une histoire où j'ai encore les mêmes problèmes qu'à la maison. Voilà. Bon, cela dit, comme ça fait partie de ma vie, il y a forcément un jour où je pense que j'y viendrai à cette question-là. Il faudra bien l'affronter.
Donc, la relation frère-sœur, elle peut être très forte, elle peut être aussi très conflictuelle. Je trouve que tu le décrivais très bien, Olivier, cette violence que ça peut être quand arrive le petit frère ou la petite sœur, un petit peu. Moi, ça me fait penser à comme si voilà, le conjoint ramenait une tierce personne, un monsieur ou une madame, en disant voilà, maintenant, je l'aime autant que toi et il va rester là. toujours. Et c'est comme ça. Est-ce que vous avez ce sentiment que voilà, le frère ou la sœur qui arrive, ça peut être en fait plus, bien plus dur que bon.
J'ai une anecdote débile, évidemment. Mais donc, j'avais 7 ans et demi au moment où ma sœur allait naître. Et mes parents se disaient que 7 ans et demi, du coup, j'ai été enfant unique pendant 7 ans et demi, que ça risquait d'être compliqué pour accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pris un petit chiot, en fait, en me disant, comme ça, ça va le détourner un peu, ça va l'occuper, etc. Et en fait, effectivement, ça a très, très bien marché. Sauf que le chiot est devenu chien et qu'en fait, à un an, il a disparu. Il a disparu. On ne sait pas s'il s'est fait écraser, on ne sait pas, mais il a disparu. Et en fait, j'ai fait des crises de larmes. Donc, j'avais 8 ans, j'ai fait des crises de larmes incroyables. Je disais à mes parents, mais pourquoi c'est lui et pas ma sœur qui n'est pas partie? Voilà, forcément, parce qu'il y avait l'un des deux qui était beaucoup plus intéressant que l'autre et qui pleurait pas la nuit, quoi.
Aurélie, c'est toi qui as votre trio, la relation la plus belle et touchante entre frères et sœurs. Donc, est-ce que c'est un choix d'avoir montré ça? Parce que toi, pour toi, c'est la relation frère-sœur, elle est belle? Ou est-ce que c'est dans ce roman-là que ça t'intéressait particulièrement et que tu pourrais peut-être, dans l'avenir, nous raconter une histoire un peu moins rigolote entre frères et sœurs?
Moi, en fait, j'ai la position inverse d'Olivier. C'est-à-dire que c'est moi qui suis née 8 ans plus tard et j'avais un grand frère. Et... oui, c'est vrai qu'il n'était pas très content quand je voulais débarquer dans sa chambre pour dormir parce que j'avais peur des monstres et tout ça, évidemment. Ils étaient déjà dans ma tête. Et donc oui, je pense qu'en fait, c'est vrai que 8 ans, c'est un écart qui est assez compliqué. Moi, j'ai une relation assez distendue avec mon frère. On se voit très rarement, on se voit pour les anniversaires, c'est tout. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une part un peu de fantasme du coup, d'auteur d'avoir créé cette relation très forte, frère et sœur, entre mes deux personnages. Comme je disais au début, je crois que le thème de la rivalité, du conflit, est beaucoup plus exploité dans la fiction que justement celui de se compléter. C'est des choses qui remontent même au mythe ou à la Bible. Hein. On pense évidemment à Abel et Caïn ou à Joseph. Dans la Bible, au niveau des mythes, il y a Seth et Osiris. Là, j'en ai pas un autre qui vient, mais il y en a beaucoup. Aussi dans les contes. Tout ce qu'il y a eu comme relation terrible, frère-sœur dans les contes, Cendrillon avec ses sœurs, cette relation de conflit. Et notamment, en fait, ce qui est assez intéressant, on remarque que les relations les plus saines entre frères-sœurs, c'est quand ils sont très différents les uns des autres. Notamment, les frères Dalton, ils se disputent, mais quand même, ils sont tous les quatre ensemble et ça, leur groupe, il tient. Ou les sept nains de Blanche-Neige. Alors, mon copain me disait, mais les sept nains de Blanche-Neige, t'es sûr, ils sont frères? Mais je crois que oui, hein. En tout cas, ils sont très différents, ils s'entendent très bien et tout ça, et tout va bien dans cette fratrie-là. Moi, je ne sais pas si j'écrirai un jour sur les conflits frères-sœurs. Ça s'est fait frères-sœurs dans Loup chantant, mais ça s'est fait un peu comme ça. Je n'ai pas vraiment théorisé tout ça. Moi, il y a un texte que j'aime beaucoup, un roman que j'aime beaucoup sur le conflit frère-frère, pour le coup, que vous connaissez peut-être. C'est le premier de Nadia Coste, qui raconte en fait un duel fratricide absolument terrible entre deux frères. En fait, c'est le premier vampire et le premier loup-garou de l'histoire. Et tous les deux, ils vont s'entre-déchirer. Ça, une relation frère-frère qui déboîte. Vous pouvez lire le premier de Nadia Coste.
Oui, elle est sous la bulle. Vous pouvez aller la voir. C'est vrai que c'est un texte extrêmement fort et qui reprend en plus justement la lutte d'Abel et Caïn qui revient aux origines avec ce jeu sur l'origine du vampire, l'origine du loup-garou. Et surtout, avant que le conflit n'éclate, qui montre la jalousie, la difficulté à se construire dans l'ombre ou à côté de l'autre. Paul, est-ce que ça te parle, ça, le fait de... parce que dans le 7e guerrier mage, on a ce personnage, en effet, qui arrive tout seul, normalement, enfin, qui est très seul, et puis, en fait, au fur et à mesure, on découvre son passé, il n'est pas si seul que ça.
Oui, on utilise le mot frère pour dire s'aimer comme des frères d'armes, on ne le dit pas pour les sœurs, hein, mais je pense qu'on pourrait moderniser un peu ça, hein, les sœurs d'armes. Et dans le 7e guerrier mage, Jal arrive tout seul, En fait, il n'est pas tout à fait tout seul, il y a quand même quelqu'un qui l'a recueilli. Et tout seul, il n'est pas grand-chose, il n'est rien. Et c'est uniquement quand il commence à s'entourer de personnes qu'il peut considérer comme ses égaux, comme ses frères et sœurs, qu'il devient un mage puissant. Du fait que ces gens lui font confiance, ces gens l'aiment et qu'il les aime aussi. C'est les liens entre ces gens-là qui permettent à la magie d'exister. Évidemment, on est en fantasy, donc la magie existe. Mais dans la réalité, on l'expérimente. Hein, moi qui ai vécu dans une famille nombreuse, effectivement, on passait beaucoup de temps à se disputer. Mais dès qu'arrivait un danger extérieur, on était extrêmement solidaires les uns des autres. Et on était beaucoup plus forts à quatre qu'on ne l'aurait été chacun individuellement. Et je vois ça, je revis ça. On a déménagé récemment, excuse-moi, je raconte ma vie, mais j'ai deux enfants qui ont déménagé et qui se sont retrouvés dans une école en février. Et c'est deux enfants qui disputaient beaucoup. Et du jour où ils se sont retrouvés dans cette école tous les deux, ils se disputent plus. Et à la récréation, ils vont se chercher, ils se trouvent, ils ont les mêmes copains, même le petit, hein, qui va voir les copains des grands. Et c'est assez touchant de voir cette unité retrouvée face à l'adversité.
Et ce côté tribu, le fait de, quand on n'a pas de frères et sœurs, d'aller s'en chercher. Je pense à Olivier, dans tes derniers romans pour ados, on a une héroïne qui est fille unique et qui souffre beaucoup de ça, en fait, d'être toute seule. En plus, sa mère ne fait pas trop gaffe quand même. Et qui va finalement se trouver. C'est pas vraiment ça lui tombe dessus, quoi. Mais se trouver une sorte de tribu qui est assez intéressante, il me semble, dans cette idée du frère-sœur, parce que ce sont des frères qui ne sont pas forcément simples. À gérer un petit peu comme si c'était vraiment des frères voilà, avec qui de temps en temps on se castagne, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai une lecture qui te semble juste ou je me plante ?
Bah, je suis un peu perturbé que tu les appelles ses frères vu qu'elles fantasment sur deux d'entre eux, mais sinon, mais sinon oui. Alors après, moi je suis très paresseux comme écrivain, il faut le savoir, je suis très paresseux. Et en fait, rajouter des frères et sœurs dans une histoire, ça rajoute de la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une histoire, vous avez une intrigue, vous avez des personnages. Et si les frères et sœurs ne font pas partie de l'intrigue, finalement, ils ne servent, entre guillemets, qu'à rajouter de la crédibilité, qu'à rajouter de la profondeur à l'histoire pour donner une famille au héros, à l'héroïne. Mais bah, Aurélie disait très bien au tout début de la conférence, elle disait qu'est-ce qu'on fait souvent en littérature jeunesse ? On se débrouille pour que les parents ne servent à rien. Soit ils sont morts, soit ils sont éloignés, soit ils n'ont rien compris, soit on leur cache la vérité. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas beaucoup de rôle dans l'histoire. Et bah, ça fait des personnages en moins aussi à gérer. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, je suis sûr que c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de familles monoparentales également. C'est bien, hop, un parent en moins, ça c'est pratique. Et du coup, en fait, dans Le Noir et ma couleur, qui était donc ma première série jeunesse, Manon, l'héroïne, a une sœur plus jeune qui n'a rien à voir avec elle et un frère plus âgé qui n'a rien à voir avec elle. Et on voit en fait au fur et à mesure que même s'ils n'ont rien à voir, même s'ils se disputent pour des choses, alors je rejoins ce que disait Paul, ils vont se disputer pour des choses qui sont très bénignes, je veux dire, genre il y en a une qui a l'impression que c'est toujours elle qui met la table, enfin voilà, que ses parents laissent faire beaucoup plus de choses à l'aîné plutôt qu'à elle, etc., etc. Mais à partir du moment où il y a un vrai problème, à partir du moment où il y a un danger qui... Je suis désolé, j'ai la voix qui déraille un petit peu parce que je suis sorti hier et que j'aurais pas dû. Et dès qu'on voit qu'il y a des dangers qui pèsent sur leur vie, etc., etc., tout de suite, ça devient une famille beaucoup plus importante, beaucoup plus unie. Et donc oui, effectivement, dans La Magie de Paris, il y a cette... Je pense que personne, même les gens qui se revendiquent ermites, qui se revendiquent misanthropes, etc., personne n'aime être totalement seul. Ou en tout cas vraiment vraiment très peu de gens. Et dans le cas de Chloé, donc l'héroïne de La Magie de Paris, non seulement elle n'a pas de frères et sœurs, mais en plus effectivement sa mère a divorcé, enfin son père a quitté sa mère et elle se retrouve à vivre uniquement avec sa mère, et en plus sa mère passe son temps sur les sites de rencontres, donc elle se retrouve seule plus ou moins en permanence, et ça rajoute de l'importance à ses copines, ça rajoute de l'importance effectivement aux différentes personnes qu'elle va rencontrer. Et il y a un mécanisme qui était à la base, en fait, l'idée à la base de La Magie de Paris, qui est qu'en fait, elle va se lier magiquement, enfin, un garçon va se lier magiquement à elle, elle va devenir son protecteur, et en fait, ils vont pouvoir mutuellement entendre, alors pas vraiment entendre leurs pensées, mais ressentir les émotions, ressentir la présence de la personne, etc., etc. Ce qui est très, très perturbant quand on est une ado de 15 ans et qu'on se rend compte que quelqu'un peut lire dans nos pensées, je pense que vous pouvez imaginer. Mais du coup, on peut retrouver finalement cette espèce de proximité. Moi, je sais que ma sœur, je ne sais pas pour vous si c'est pareil, on n'est pas très proches. Je rejoins ce que tu disais sur ton frère. On se voit de temps en temps. On se voit une fois par an, deux fois par an peut-être, rapidement. Mais on a quand même l'impression, bah, quand ça ne va pas, j'ai l'impression que je le sais. Elle le sait aussi, elle le sait. Voilà, on a quand même un vrai lien. Et ce n'est pas grave si on ne se voit pas très souvent. Ce n'est pas grave si, quelquefois même, on n'a pas forcément envie de se voir. Ça arrive, hein, on a juste autre chose à faire. Genre, oh, je descends dans le sud, est-ce que tu peux m'héberger ? Non, je suis occupé. Mais ça ne veut pas dire que, bah, typiquement, vous savez, la phrase qu'on dit tout le temps qui est de dire, bah, imaginez, vous trompez, vous faites quelque chose, je ne sais pas, vous tuez quelqu'un, vous renversez quelqu'un en voiture, machin, voilà. Qui sera votre complice ? Est-ce que quelqu'un sera votre complice si vous voulez cacher l'affaire ? Et c'est vrai que, bah, typiquement, alors j'espère que je me tournerai vers ma femme, mais je sais que ma sœur serait dans le coup aussi, quoi. Alors que mes parents, pas forcément. Parce qu'ils seraient là, oh, il faut que tu te dénonces, après tout, tu as tué quelqu'un. Je serais, oui, bah ça va. Pardon.
Aurélie, est-ce que l'attachement du Yuri pour sa sœur, pour Kira, est-ce que c'est parce que c'est son frère, il n'a pas le choix quelque part, c'est ce côté tribu, voilà, c'est une sorte de choses qui s'imposent d'elles-mêmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui choisit quand même de l'aider, de la protéger, de la sauver éventuellement?
Bah, je pense que ça s'est quand même un peu imposé, même s'il n'en a pas conscience, parce qu'en fait, ils vivent dans un petit village qui est coupé du monde par un blizzard magique qui entoure leur petit village pendant 6 mois de l'année. C'est un phénomène qui les coupe de l'extérieur et en même temps qui les protège des monstres de cette Sibérie fantastique, pour pas que ça qu'ils déferlent sur le village. Donc ils sont un peu en vase clos, ils vivent les uns avec les autres. Comme je disais au début, bah, les parents sont partis il y a quelques années. Et notamment, lui a perdu, le héros, Yuri a perdu celle qu'il aimait. Elle a disparu il y a un an avant le début du récit. Elle s'est enfoncée dans le blizzard, attirée par le chant des loups. Donc c'est vrai que sa sœur, finalement, c'est vraiment aussi ce qui lui permet de s'ancrer, c'est des assises, c'est, voilà, c'est dans la difficulté, dans le deuil. D'ailleurs, c'est vrai que des fois, il est fâché contre elle parce que sa sœur lui dit « Mais fais ton deuil, elle est morte, elle a été mangée par les loups. » Et lui dit « Mais non, je suis sûre qu'elle est toujours en vie quelque part. » Donc il y a quand même cette opposition entre eux qui est dure parfois au niveau des engueulades. Et puis là, comme on l'a dit, quand la difficulté émerge aussi, c'est bien sûr qu'il est là pour la soutenir dans cette maladie qui la contamine. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a effectivement quelque chose qui est imposé parce qu'ils sont en vase clos et que de toute façon ils sont toujours l'un avec l'autre. Et puis il y a cet formidable amour qu'ils ont l'un pour l'autre.
Cet amour, Paul, cet amour fraternel, en quoi il te semble différent d'une grande amitié pour quelqu'un du même âge Qu'est-ce qu'il a de particulier, l'amour fraternel ? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'universel dans l'amour fraternel, ou c'est forcément selon les familles, selon les individus ? C'est compliqué. Bah, est-ce que tu le vois vraiment comme il y aurait des invariants entre frères et sœurs, entre frères, entre sœurs ? Il y a toujours au moins quelque chose qui peut relier les gens ?
C'est difficile. C'est difficile à dire, je ne connais pas toutes les familles, je peux connaître mes frères à moi et mes sœurs à moi et éventuellement mes enfants et ceux des tiens par exemple, et ceux des gens que je vois autour de moi. Je pense que ce qu'a dit Olivier là, quand il a tué quelqu'un avec sa voiture et qu'il a appelé sa sœur, me semble assez juste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont partagé avec nous l'enfance, les parents, et l'enfance c'est quand même une période de la vie qui nous marque à tout jamais. Et même si on s'éloigne, hein, comme vous disiez tous les deux, même si on ne se voit pas tous les jours, même si on n'a pas envie de les voir, on est lié jusqu'à la mort, en fait, par cette période de l'enfance qu'on a vécue ensemble. Et par tout, je vais me répéter un peu, mais par tous ces conflits qu'on a vécus, où on s'est soudés les uns avec les autres, on a eu ce réflexe, en fait, étant enfant, il y a un étranger dans la maison, on est ensemble contre lui. Pas forcément contre lui, hein, mais... enfin, en tout cas, on se sent solidaire. Et je pense que quand il s'agit de la police, hein, on a le même réflexe. Hein. Et il nous revient comme un réflexe de Pavlov, comme là, j'ai un problème, je vais en parler à mon frère, à ma sœur. Je ne sais pas si c'est universel, je pense qu'il faut quand même avoir vécu l'enfance. Je pense à ton roman, c'est un frère qu'elle n'a jamais connu. Donc elle ne peut pas avoir ce réflexe avec lui. C'est un frère par des liens qui ne sont pas ceux. Je pense que si on a un frère ou une sœur qui n'est pas de sang, mais qui est adoptif et qu'on a vécu toute sa vie avec elle ou avec lui, on ressent exactement la même chose qu'avec un frère qui serait un entre guillemets vrai frère et sœur. Par contre, un frère qui nous est imposé à l'âge de, je sais pas quel âge est là ton héroïne, 15 ans, voilà, il représente rien, en tout cas pas au début de l'histoire.
C'est ce qui est intéressant justement dans Faux frères, vrai secret, c'est que pour elle, il représente rien. Mais Mike, lui, par contre, il semble avoir bien déterminé, bien décidé de ce qu'il fallait faire pour être un bon frère. Comme s'il y avait cette universalité, un bon frère, ça a fait ça.
Alors, oui, effectivement. Et c'est vrai que je rejoins ce que dit Pierre, c'est qu'il y a... ce que dit Paul, putain, je suis fatigué. Je rejoins ce que dit Paul, c'est que dans les relations, pour moi, frère et sœur, il y a aussi quelque chose qui joue énormément, c'est juste tout bêtement le temps passé ensemble. C'est-à-dire que vous avez forcément, mécaniquement, sauf si vous êtes vraiment d'une famille un peu bizarre, passé plus de temps avec vos frères et sœurs qu'avec même vos meilleurs amis. Si on compte à partir de l'enfance, vous avez passé tous les repas de famille ensemble, tous les repas quand vous étiez à table, quand vous étiez enfant, vous avez regardé la télé ensemble, vous avez fait des jeux ensemble, vous étiez en parc ensemble, toutes les excursions que vous avez faites, toutes les vacances avec vos parents, c'était avec vos frères et sœurs. Donc mécaniquement, si on accumule les heures, on se rend compte qu'on a passé des milliers d'heures en fait avec nos frères et sœurs. Et donc c'est logique aussi, même si c'est conflictuel, que le lien soit plus important finalement qu'avec quelqu'un qu'on connaît moins bien. Et puis il y a aussi le fait que, on dit toujours, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Surtout au début, alors effectivement, quand on a 20 ans, 25 ans, on peut choisir de dire je ne vois plus mon frère, je ne vois plus ma sœur. Mais avant, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, 11 ans, on peut se fâcher à l'école, on peut se fâcher au collège, au lycée, avec ses amis, et du jour au lendemain, finalement, il y a une cassure et on ne se voit plus. C'est pas le cas avec son frère ou sa sœur, parce que son frère ou sa sœur, on peut dire « je te vois plus », on va le voir le soir à la table du repas quand même. Donc ça peut jouer, ça peut exacerber tout, c'est-à-dire qu'on peut, déjà des choses qu'on pensait impardonnables, finalement on a été obligé de passer une semaine dans le Morbihan, on n'avait rien à faire, désolé pour le Morbihan. Donc du coup, exemple pris quoi, totalement au hasard, on s'est ressoudé en fait, alors que si ça avait été un ami, on aurait coupé les ponts, on n'aurait jamais passé cette semaine dans le Morbihan, on ne se serait jamais ressoudé. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment, vraiment ça qui va jouer sur le côté frère et sœur. Donc on peut avoir une idée très précise de ce qu'est un bon frère, une bonne sœur, etc. N'empêche que déjà quand on est enfant, je pense que tous, je pense que vos enfants font la même chose, mais on n'a pas le choix. Quand on est accusé d'une bêtise, de toute façon on est bien obligé de dévier vers quelqu'un. Il y a la sœur qui ne peut pas se défendre, c'est la sœur, hein. et inversement, très souvent inversement d'ailleurs, puisque c'est bizarrement, on croit toujours plus la petite fille de 4 ans que le garçon de 11 ans. Je sais pas pourquoi.
C'est pas vrai, ça.
C'est vrai,
ouais. Moi, je suis un petit dernier.
Ah, voilà. Ouais, mais tu dis ça parce que t'es le petit dernier, c'est exactement ça. Ouais.
Du coup, j'ai l'impression que, on fait le tour de ça. La relation frère-sœur, dans la vraie vie, on m'entend vraiment ou pas ? Bon, c'est compliqué, c'est difficile à résumer, c'est difficile à synthétiser. Et finalement, est-ce qu'avec l'imaginaire, est-ce que c'est pas un moyen, un procédé justement de se débarrasser des questions qu'on n'arrive pas à traiter parce que ça couvre trop de trucs, la relation frère-sœur, pour se concentrer sur quelque chose qui nous intéresse bien, avec un prétexte magique ou comment vous en êtes servi du coup dans l'imaginaire du faux frère, on va pas dévoiler tout, mais de cette arrivée, ou Aurélie dans Les loups chantants, de la maladie, de l'isolement, etc. Est-ce que ça vous permet du coup de focaliser sur un truc, frère-sœur, et de vous éviter tous les autres trucs qui vous embêtent ?
Non, en fait, je sais pas trop quoi répondre à ta question, mais...
Ouais, c'est pas grave, tu réponds à côté. Est-ce que ça t'apporte dans l'imaginaire, dans la relation frère-sœur ? Est-ce que tu l'aurais écrite pareil dans un roman réaliste ou
C'est une bonne question, mais peut-être que oui quand même. En préparant un peu la conférence, je remarquais que c'est assez peu abordé en fait dans les textes imaginaires. Il y a assez peu de relations frères-sœurs. Aussi, moi, je travaille à côté en psychiatrie, et pendant longtemps, c'est pas non plus des liens qui ont été très investigués au niveau des quand on investigue la recherche de sens avec les patients, avec les problèmes qu'ils nous exposent. On interrogeait beaucoup des relations verticales, c'est-à-dire des parents. Avec vos parents, vos relations avec vos parents. Et c'est assez récemment, en fait, qu'on s'intéresse en clinique, en psy, à la fratrie. Et ça, c'est quelque chose qu'on interroge beaucoup plus. Mais ça a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, les frères et les sœurs, on ne s'y intéressait pas beaucoup. Et en littérature, donc, c'était pas non plus. J'ai pas trouvé pléthore d'exemples où le frère et la sœur soient au centre du récit. J'ai pensé évidemment, aux liaisons dangereuses. Avec une relation hyper déglinguée, super bizarre entre eux. Et un autre exemple, par contre, de suppléance familiale et de très très belles relations entre sœur-sœur, pour le coup, c'est Hunger Games. Alors là, on a une relation sœur-sœur qui. Moi, c'est presque une des plus touchantes que j'ai lues, donc avec la grande sœur qui va prendre la place de la petite dans les jeux de la fin. Et vraiment, c'est super fort. Et comme la grande sœur est en suppléance familiale avec la mère qui est dépressive, qui ne peut plus s'occuper de la famille, avec la grande sœur qui prend tout sur les épaules, qui prend le fardeau sur les épaules, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et je pense qu'on retrouve aussi ça, d'ailleurs, dans mes bouquins. J'ai tendance à avoir des personnages qui portent beaucoup sur eux, qui prennent beaucoup sur leurs épaules et des fardeaux, parce que c'est un peu la même chose dans Le Roi des Fauves. Alors, ils ne sont pas frères et sœurs, ils sont copains d'enfance. Mais c'est comme un peu...
C'est la tribu, ouais.
Ouais, c'est un peu la tribu. Hein. Les trois personnages du Roi des Fauves, Ivar, Kaya et Oswald, ils se connaissent depuis l'enfance. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui a une sœur, mais j'en parle pas beaucoup.
Non,
elle disparaît très vite, la sœur d'Oswald. Mais vraiment, voilà, c'est eux, ils ont c'est une fratrie imaginaire et ils se soutiennent. Ils sont vraiment aussi en lien pour s'aider les uns les autres. Voilà. Mais enfin, je pense que presque tout le monde ici a lu Hunger Games, mais c'est une belle relation sœur-sœur, et jusqu'à ce qui va se passer dans le tome 3 qui est extrêmement percutant.
C'est marrant parce que tu fais référence à Hunger Games, et dans le passage que j'ai lu d'Olivier tout à l'heure, il y a une référence à Divergente et à Triss. Hein, et dans Divergente, Triss, elle a une relation fort conflictuelle avec son frère. Tu y avais pensé en le mettant ou pas?
Non, absolument pas.
Mais c'est un beau truc inconscient.
Ouais, j'avoue, c'est... Mais c'était juste, effectivement, le fait que c'était, en gros, mon héroïne est une grosse lectrice, justement, de littérature de l'imaginaire. Et en fait, elle, à chaque fois qu'elle est en train de réfléchir, etc., elle cite voilà, la première phrase du bouquin. Et quand elle se décrit, elle dit qu'elle a une natte stylée à la Katniss Everdeen. Donc voilà, en fait, elle a lu Hunger Games, elle a lu Divergente, elle a lu, évidemment, elle fait des références au Seigneur des Anneaux aussi, etc. Elle a une culture, enfin, c'est des gens, c'est une fille qui aurait été dans la bulle du livre comme vous. Du coup, je trouve que c'est bien. Et je reviens sur un truc que j'avais dit, parce que par rapport à ce que dit Aurélie, je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure en disant que c'est facile aussi. Dans l'imaginaire, par rapport à la littérature blanche, je sais pas, on rigole toujours en fait en disant on peut très facilement voir un pitch de film français par rapport à un pitch de film américain. Si je vous dis, il y en a un, c'est une météorite va s'écraser sur la Terre, tout le monde est en train de courir, heureusement un savant va réussir à créer une invention qui va permettre de dévier la météorite, et de l'autre côté, Julie a été larguée, elle vit une vie un petit peu difficile, heureusement son beau-père tombe amoureux d'elle, mais elle ne sait pas si elle va accepter cette relation. Voilà, vous voyez quel est le film français, quel est le film pas français, et que c'est la caricature. Mais en fait, ça montre vraiment bien la différence entre littérature blanche et littérature de l'imaginaire, dans le sens où dans la littérature blanche, on s'intéresse aux personnages en premier lieu. Quand vous lisez un roman de littérature blanche, ça peut être autobiographique, ça peut être l'histoire d'une personne, de relations justement conflictuelles dans la famille. Là, il y a énormément, on peut trouver énormément d'histoires dans lesquelles il y a des frères, des sœurs, etc. En fantasy, on s'en fout parce que nous, on sauve le monde. On est là pour dire dans nos bouquins qu'effectivement, voilà, on essaie de sauver quelqu'un qui va se faire geler, mais c'est même pas ça le seul but du bouquin. On va sauver une vallée qui va être détruite, etc. Donc en fait, entre guillemets, on n'a pas le temps ni l'envie forcément, en tout cas je parle pour moi, de rentrer dans le détail spécifique. Et je prends un exemple très très précis parce que moi, il m'a vraiment emmerdé. c'est dans Les Épées de Glace. Donc ma série, une série de fantasy chez Bragelonne. En fait, dans Les Épées de Glace, vous avez deux héros au début, Maline et Shani, un garde de la ville, une servante. Ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Je schématise rapidement. Ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ils fuient la ville, ils partent pour un voyage de 2 mois. Et ensuite, en fait, plus tard, ils reviennent en ville. Bon. Sauf que moi, j'écrivais ce truc et j'étais là, je fais OK. Mais enfin, quelque part, ils ont des parents. Parce qu'ils ont 20 ans, 19, 20 ans les deux. Et je dis, mais quelque part, ils ont des parents qui se disent quand même, tiens, mon fils a disparu, tu vois, c'est vrai. Ils ont peut-être des frères et sœurs, j'avais pas forcément prévu le truc, mais qui, pareil, se posent la même question. Et du coup, ils s'en préoccupent pas du tout au moment où ils partent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas. Parce que ça ralentit le récit, je vais pas faire une scène, genre, ou alors qu'ils ont décidé de partir en pleine nuit, tout d'un coup, je mets une scène où Maline, il va voir son père, il lui dit, écoute, papa, voilà, en fait. Et lui, je comprends, fiston, voilà une bourse d'argent pour machin, mais n'en parle pas à ta mère, parce que tu sais, elle serait pas d'accord pour tes actions. Ça ralentit le récit, et pareil, si je rajoute un frère, une sœur, et qu'il fait les adieux à le frère et la sœur, ça va encore rajouter. Et quand ils reviennent en ville, c'est pareil, ils reviennent en ville, je me dis, mais merde, je veux dire, s'il a une sœur, la sœur, ça fait 4 mois qu'il est porté disparu, il y a des affiches qui le disent, mort ou vivant, il récompense mort ou vif, elle va peut-être se dire, ah bah il est rentré, je vais peut-être lui parler. Mais non, en fait, quand j'ai écrit ce truc, j'ai fait, ouais. Et en fait, je regrette un petit peu, évidemment, mais je me dis surtout que bah, y a tellement de trucs, en fait, dans les bouquins qu'on écrit, il y a tellement d'enjeux importants que c'est super dur de rajouter une famille cohérente avec des réactions de famille cohérentes sans alourdir l'intrigue, sans ralentir le truc, etc.
Donc, en fait, dans l'imaginaire, ce serait compliqué de s'alourdir avec les frères et les sœurs qui nous embêtent définitivement. Et en même temps, alors Paul, toi, t'es un grand fan de Tolkien, enfin, t'es pas le seul, mais voilà, quand même, c'est particulier chez toi. Est-ce que ça te parle, ça, du fait que, par exemple, Sam et Frodon, ils n'ont pas de frères et ils deviennent frères, en fait, d'une certaine manière. Le côté de la tribu, la communauté de l'anneau, évidemment, ils ne sont pas frères et sœurs, enfin, ou alors, c'est un peu bizarre, mais il y a cette idée de communauté, de tribu. Est-ce que finalement, dans l'imaginaire, on n'évacue pas le frère et la sœur parce que c'est, en effet, d'un point de vue narratif, ce serait assez embêtant pour le recréer autrement dans de l'amitié ou dans les aventures, comme tu as pu faire dans le 7e Guerrier Mage, où c'est la tribu ou...
Mais oui, exactement, et je pense que Olivier a raison. Quand on écrit un bouquin d'imaginaire et quand on le lit, souvent c'est une littérature d'évasion. C'est pas une littérature intimiste. Et donc, quand on s'évade aussi de son quotidien. Et le quotidien, c'est les frères et sœurs. Et comme tu disais, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Donc, puisqu'on s'évade et puisqu'on aime la liberté, on choisit aussi ses nouveaux frères et sœurs. Donc, tu citais Frodon et Sam. Alors, il y a deux frères dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a Boromir et Faramir.
C'est pas super sympa non plus entre eux.
Ouais, je sais pas si vous connaissez un peu. Et je pensais à deux autres frères aussi, c'est dans Joe Abercrombie, Servir Froid. On a un frère et une sœur. Là, on est dans le modèle, ils ont perdu leurs parents et donc ils s'entraident. Et c'est les seuls amis du monde, en fait. Parce qu'ils ont cette relation, alors ces milliers d'heures passées ensemble, et ce reste du monde aussi qu'il faut affronter. Et je spoil pas en disant que dès le premier chapitre, le frère meurt et que la sœur jure de le venger. Et c'est tout l'intérêt du livre, enfin, c'est toute l'histoire du livre. Voilà. Elle sauve pas l'humanité, elle sauve pas le royaume qui est complètement mis à feu et à sang au cours du livre. Elle veut simplement se venger des gens qui ont tué son frère. Et donc, ça rejoint un peu ce que tu disais. À partir du moment où on n'a pas besoin de sauver le monde, on peut s'intéresser à ses frères et sœurs. Ouais.
Et puis surtout, c'est que c'est un élément du roman. Évidemment, si le frère ou la sœur est un élément du roman, ça ne l'alourdit pas de le mettre en avant. Voilà. Mais s'il avait eu, par exemple, typiquement, là, il y a un frère et une sœur. Je suis désolé, j'ai pris la parole, pardon. Là, il y a par exemple, ça m'intéresse vraiment, ça sur servir froid, il y a un frère et une sœur. Est-ce que l'histoire aurait gagné au fait qu'il y ait par exemple deux frères et une sœur ? Il y a deux frères et une sœur, ça arrive, hein, je veux dire, voilà, c'est une fratrie normale. Il y a un des frères qui se fait tuer et la sœur, exactement le même scénario, hein, la sœur veut le venger, met tout à feu et à sang, etc. Mais concrètement, à quoi aurait servi le deuxième frère ? Il n'a pas de rôle dans l'intrigue puisqu'il ne se fait pas tuer et qu'il n'est pas là pour la vengeance. Donc en fait, il aurait été là, entre guillemets, que pour mettre peut-être un peu de profondeur ou de crédibilité dans la famille. Mais effectivement, bah là, tu as un exemple parfait. Pourquoi est-ce qu'il y a un frère ? Parce qu'il faut que l'intrigue ait un frère. Sinon, elle n'aurait pas eu de frère.
Pourquoi Hansel et Gretel, ils sont que deux ? Pourquoi le petit poussé, il a sept frères ? Mais ils sont tous pareils, en fait, comme si c'était les sept nains. Finalement, ça fait que deux entités. C'est intéressant ça, en effet, l'idée que finalement, bon, soit on part sur cette relation-là, et, comme dans Les loups chantants, et on va s'y intéresser tout du long, soit en fait finalement on va l'évacuer, parce que d'un point de vue narratif c'est pas du tout intéressant, et on va jouer peut-être qu'il serait joué entre frères et sœurs avec d'autres personnes finalement. Ça me semble assez bien résumer notre... On tient quelque chose. Non mais en fait ce thème, il est, ça faisait un moment que ça intéressait la directrice artistique de s'en saisir, parce que, comme tu le disais, en psychiatrie, c'est quelque chose qui a peu intéressé encore. Et même en littérature, hein, c'est pareil, c'est compliqué à gérer. À part des relations très précises, très particulières, comme dans Hunger Games ou comme dans les contes, on n'a quand même pas, ou Faramir et Boromir, on n'a quand même pas tant d'exemples que ça. Et c'est assez binaire. C'est ou le conflit ou on sauve l'un l'autre en tribu, quoi.
Alors, j'ai le contre-exemple parfait, évidemment.
Ah, génial.
Ouais, bah, oui, c'est le Trône de Fer. Là, on a...
Là, on en a plein, ouais.
Là, voilà, c'est des grandes sagas familiales. Il y a les Stark, ils sont très nombreux, les frères et sœurs. Et justement, ils sont... Alors, il peut y avoir des petites rivalités, notamment entre les deux sœurs, Arya et Sansa, mais ils sont tous très différents les uns des autres, et ça au niveau de la narration, évidemment c'est très intéressant pour l'auteur et pour l'histoire. Il y a aussi la question de l'inceste qu'on n'a pas du tout abordé ici.
Non, parce que oui, ouais, on parlait de vos livres plutôt jeunesse.
Oui,
voilà, alors,
oui. C'est, et là qui est au cœur évidemment du récit, c'est un nœud dramatique extrêmement important dans le Trône de Fer, c'est quasiment ce qui va lancer tout. Et au niveau des relations frères-sœurs, c'est dans une saga de fantasy, je crois que celle-là, elle est quand même hyper intéressante.
Oui, allez-y.
Bloodsong.
Ouais, moi, j'ai pas la référence. Ouais.
Ouais, je l'ai lu, je m'en souviens pas.
Ouais, moi c'est ça, j'ai lu, je m'en souviens pas. Mais justement, peut-être parce qu'il sauvait pas le monde, du coup. Qu'il avait pas...
Vous avez des questions ou des choses que là, on a vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la recherche. Et c'est assez intéressant, allez-y. La question des jumeaux. Alors ça, ouais, ça c'est intéressant parce que du coup, la question des jumeaux, elle va être hyper spécifique. Et ça, par contre, ça arrive de temps en temps. Et dans ce cas-là, il me semble qu'on va voir les auteurs traiter la difficulté à avoir son identité propre. Mais alors, des exemples précis. Oui. Les Weasley.
Ouais. Ah.
Les Weasley, ça va, je les connais bien. C'est vrai qu'il faut qu'il y en ait un qui perde une oreille pour qu'on finisse par les repérer. C'est intéressant, les Weasley, parce que Harry, il a un frère adoptif abominable, comme dans Cendrillon. Hermione, elle est fille unique. Et Ron, lui, il a toute une tripotée de frères et sœurs. Et il n'a même pas la chance d'être le dernier. Il est vraiment dans la position la plus abominable. Et du coup, il y a tous les éléments de la fratrie Rowling. Elle traite, elle, par contre, grâce aux Weasley, tous les rapports. Rapport frère-sœur, rapport frère-frère, rivalité, gémellité, le frère qui trahit, le frère absent. Elle nous fait tout d'un coup, en fait. Mais c'est peut-être encore un procédé narratif de tous les bourrer dans une seule famille, finalement. Il y a d'autres questions ? Ouais. Oui. On retrouve la question du jumeau quand on a des clones. Christophe Lambert, il fait ça bien de parler du clone et du frère qui est pareil, en fait. Qui est exactement pareil. Alors là, la question d'identité, elle devient très compliquée. Et je pense que là, on traite finalement plus de la question frère-sœur, enfin fratrie en général, parce que c'est une question qui se pose, la question d'identité. Mais grâce à l'imaginaire et à l'image du clone, vous m'arrêtez si je raconte n'importe quoi. Il met vraiment en évidence, on met vraiment en évidence le fait que la question d'identité entre frères et sœurs, savoir comment on se constitue alors qu'on passe toutes ces heures ensemble, on est pareil a priori, on a la même éducation, mais comment on fait pour être un individu différent de l'autre?
Moi, je vais t'arrêter.
Merde.
Non, je trouve ça intéressant ce que tu dis, et notamment la question des frères et sœurs. Je commence à réfléchir à la question parce que ça fait trois quarts d'heure que je sais que je vais participer à cette conférence, mais les idées commencent à venir, tu vois.
C'est cool, on recommence demain.
Souvent, les frères et sœurs sont utilisés pour montrer les différences entre un frère et une sœur, entre deux frères, pour montrer que le choix de l'un ne sera pas le choix de l'autre et mettre en évidence leur caractère. Je pense à Boromir, à Faramir. Je ne sais pas si vous avez tous vu Le Seigneur des Anneaux. Boromir cède à l'attraction de l'anneau, Faramir non. Et ça les distingue, ils sont frères, donc ils sont censés être ressemblés, avoir la même éducation, les mêmes parents, et pourtant ils ne font pas le même choix. Et donc, ça les crée en tant que personnage. Whisley, ouais. C'est pareil. Tu as oui, le Percy qui prend fait et cause
pour le ministère.
Pour le ministère, permet de mettre en relief que des gens élevés par la même famille peuvent faire des choix différents. Et ça leur donne un caractère différent.
Et Arya et Sansa, c'est vraiment...
Ouais, ça, c'est...
Et pour reprendre Percy, justement, ce que je trouve super intéressant, ça rejoint ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que les liens du sang, finalement, on ne peut pas les distendre, ils sont là, ils existent. Et donc, si vous avez quelqu'un qui... Si vous êtes vraiment dans deux camps opposés et que vous étiez amis, très souvent, l'amitié va céder. Si vous avez quelqu'un qui va voter FN, quelqu'un qui va voter Mélenchon, ou... Excusez-moi, je ne suis pas censé parler politique, mais j'essaie de prendre deux opposés ou
ah,
ce que vous voulez.
Tu peux, hein.
Voilà. À un moment ou un autre, il est possible que l'amitié ne survive pas. Maintenant, ça arrive dans des familles. Et je trouve ça super intéressant de voir que, justement, y a des vrais dilemmes moraux qui sont posés, de dire, bah voilà, moi, je suis flic, ma sœur est cambrioleuse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je ferme les yeux? Est-ce que j'essaye de l'aider, de détourner? Alors que ce serait un ami, la question serait probablement beaucoup plus vite réglée, mais c'est quelqu'un de ma famille. Il y a d'une part l'importance du lien du sang et d'autre part cette crainte qu'on peut avoir qu'on met souvent dans la littérature de dire est-ce qu'elle va m'entraîner dans sa chute? Si ma sœur est sur les barreaux, est-ce que ça va jouer sur mon avancement à moi en tant que flic? Et du coup, comme les liens du sang, on ne peut pas les briser, on est obligé de composer avec, même quand on n'a pas du tout la même opinion, pas du tout la même idée, qu'on est dans les deux côtés d'un camp et des affrontements fratricides, justement, ça, c'est probablement les pires affrontements.
Ouais. Ouais. Oui, c'est y a la question parentale forcément aussi qui se pose. Hein, c'est la question de la tribu au sens large. Alors.
Ouais, bah ouais, par exemple. Tu vois. Ouais. Dexter.
Bon, du coup, on va être obligé de s'arrêter sur cette suspension, je pense. Et en même temps, on commence peut-être à tenir quelque chose. C'est qu'en gros, c'est tellement compliqué, frère sœur. Ça pose tellement des questions essentielles. C'est que si on choisit de les développer. C'est vraiment pour s'y intéresser pleinement et on peut pas, et c'est peut-être pour ça qu'on n'en trouve pas tant que ça. C'est quand on les trouve, par contre, c'est extrêmement important, c'est forcément central dans le roman. Ça vous va comme semi-conclusion? Bon.
On a mis une heure pour se chauffer, mais on est bien là.
Ok. Bon, désolé pour le côté un peu improvisé, j'espère que ça vous aura intéressé quand même. Merci.